que c'est normal d'avoir mal pendant les règles? C'est quoi un frottis exactement? Comment je peux faire mon coming out? Comment je fais si la capote elle craque? C'est quoi la différence entre mon sexe et mon genre? C'est quoi exactement le consentement? Toutes ces questions sont des questions réelles, d'adolescents, d'adolescentes. Et mon invité du jour, Camille Aumont-Carnel, qui tient le compte Instagram hyper connu qui s'appelle Je m'emballe clito, a reçu 25 000 témoignages d'adolescents, d'adolescentes de France, de Belgique, d'en Suisse, du Canada, du Sénégal, du Mali, de Madagascar. Et elle a discuté pendant 2 ans avec 1200 adolescents, adolescentes, pour pouvoir créer cet ouvrage dont on va parler ensemble, Ado Sexo. Toutes les réponses aux questions que les ados n'osent pas parler, n'osent pas demander à leurs parents, à des personnes de confiance, à l'école ou autre. Toutes ces questions auxquelles ils n'ont absolument aucune réponse et qui génèrent une énorme abstinence en réalité, vous allez l'entendre. En fait, la réalité de la sexualité des jeunes, c'est qu'elle est un peu alarmante, j'aurais envie de dire. Je vous laisse écouter l'épisode qui est plein de fun, évidemment. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Camille.
Bonjour Greg.
Ça fait longtemps.
N'est-ce pas?
On va parler de sexe, ça
on
fait longtemps.
On va parler de cul, absolument, ça fait longtemps. Mais c'est toujours un sujet agréable, ça fait du bien.
Alors, on va parler de cul, mais on va parler surtout des ados.
Oui.
Enfin, des culs. En fait, on va parler de l'intersection du cul et des ados. C'est ça qui va être intéressant. Pourquoi tu as décidé de faire un livre sur ce sujet spécifiquement?
Ça a été une commande qui venait des ados eux-mêmes, de ma communauté, qui m'ont demandé pendant à peu près 2 ans d'écrire un livre à ce sujet-là. Et c'était surtout un constat que j'avais où je me disais comment c'est possible que depuis que j'ai créé cette plateforme et j'ai créé ce média, j'ai tous les jours des dizaines, voire même des centaines d'ados qui me posent toujours les mêmes questions. Et c'était toujours les mêmes questions, ça n'évoluait pas en fonction des années. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant de cumuler et de rassembler toutes ces questions-là et d'enfin y répondre avec un ton qui est le mien, c'est-à-dire pas un ton médical, avec un ton qui est le mien, c'est-à-dire plus un ton de grande sœur, et les éloigner un petit peu de ce que moi j'appelle le mythe de la blouse blanche, qui sont tous ces professionnels de la santé sexuelle qui sont absolument nécessaires, mais qui leur font très peur. Donc c'est vraiment les ados qui m'ont dit mais tu veux pas écrire un livre s'il te plaît un peu genre dico des filles mais pas sexiste et guide du sexuel mais genre avec nos codes. Ouais, ok d'accord j'ai compris. Et ado sexuel est né de là.
Et surtout toi tu cibles les 14-18 donc pas parce que dico sexuel c'est pour les plus jeunes.
C'est les plus jeunes, c'est 8-12 ans et dico des filles je crois que c'est 12-16
ouais.
À peu près.
Dico des filles, je connais pas. Moi,
Dico des filles, c'est très compliqué. Ça reste un livre qui t'explique comment est-ce qu'il faut te raser, comment est-ce qu'il faut séduire, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une pochette pour cacher ses tampons et ses serviettes pour aller aux toilettes.
Ah,
ouais, on est vraiment sur une culture de l'empowerment à l'ancienne. Ah, ça ouais. Reste un livre qui c'est un best-seller tous les ans. Dico des filles, il est réédité absolument tous les ans. Et donc, je vois bien que moi, la génération que je touche, qui est vraiment la génération MeToo, donc tu vois, ceux qui sont nés en 2010, à peu près.
Ouais. Ouais, c'est bizarre, ça me rajeunit pas.
Ouais,
mais...
Ils sont nés en 2010. Eh bien, ils ne se reconnaissent, ils et elles et elles ne se reconnaissent absolument pas dans ces codes-là et dans ces dires-là et dans cette façon de communiquer. Donc c'était aussi très important pour moi d'écrire un livre qui reprend leurs codes. Pas le livre dont t'as honte, mais le livre où t'as vraiment envie de l'avoir dans la cour de récré. Et j'ai eu des échos d'ados qui me disaient, quand on leur a offert, « Ah mais putain, trop bien, tout le monde en parle dans la cour, il fallait absolument que je l'aie, franchement, non mais trop bien, c'est la meuf d'Insta, mais si, tu sais, je m'appelle Clito, bah oui, évidemment, ah tu connais pas, ah ouais, d'accord, ok. » Donc, pari réussi.
Trop bien.
C'était ça l'idée.
Et toi, t'as fait une enquête, combien de personnes
26 000 ados. Donc, je pensais en avoir 1000, tu vois. J'ai lancé un questionnaire auprès de ma communauté en me disant, bon, 14-18 ans, remplissez. J'ai une première vague à peu près de 4000 personnes. Et de là, j'ai changé un petit peu de mode de communication où j'ai dit, je sais que vous avez tous 4000 groupes WhatsApp, Snapchat, TikTok, machin. S'il vous plaît, diffusez-le. Et là, ça allait très, très vite et on a eu 26 000 réponses.
C'est énorme.
C'est énorme. Et dans ces 26 000 réponses, j'en ai choisi 1200 que j'ai interviewées pendant 2 ans au téléphone. Et donc, que j'ai suivies pour un petit peu comprendre. Donc on est en Suisse, en France, Belgique, Canada, Mali, Sénégal et Madagascar. Je voulais pas du tout m'arrêter qu'à la France, mais plutôt élargir avec cette notion de francophonie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les questions qu'on me pose et les préoccupations diffèrent en fonction de la localisation. Donc on peut même cartographier. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant. Mais ça partait vraiment d'une envie de créer un livre qui leur ressemble et qui répond à leurs besoins. Enfin, c'était, moi, c'est, dans la façon dont je l'ai pensé, c'était un livre d'urgence. C'est là, maintenant, tout de suite, quelles sont les questions que vous avez, que vous n'osez poser à personne ou, que ou auxquelles personne n'ose répondre ou ne répondent pas vraiment bien ou... Et c'est là qu'est né ce sommaire qui fait je ne sais pas combien de pages et ces centaines de questions. Ouais, ces centaines de questions, parce que c'était vraiment... Alors moi, ce que je veux absolument savoir, c'est... Et j'ai trouvé tant la façon, tant le processus d'écriture que véritablement les questions qu'on posait tout aussi intéressantes, parce qu'il y a tout un aspect vraiment socio où, en fait, dépendamment du genre de la personne, les personnes ne vont pas me poser les mêmes questions, pas dans les mêmes cadres. Les filles avaient tendance plutôt à... Enfin, les personnes qui se genraient au féminin avaient plutôt tendance à se regrouper par groupe de copines pour faire l'appel et s'organiser, genre fiche Bristol, j'ai posé toutes nos questions, machin. Les mecs, ils avaient plutôt tendance à être en mode « Ouais, j'appelle pour un pote qui m'a dit que... » voilà. Mais c'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment est-ce que je faisais un peu un livre sur mesure et qui était complètement participatif, communautaire, et ça j'avais aucun problème avec ça.
Et c'est 50-50 garçon-fille ou...
À peu près, ouais.
Enfin, garçon-fille, je sais que voilà, mais...
Oui, oui, bien sûr. Personne qui se genre au féminin, personne qui se genre au masculin, à peu près, ouais. Un tout petit peu moins, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Il y a pas mal de personnes non-binaires. Mais sinon, oui, j'ai essayé d'être assez quand même... équilibré et égalitaire pour une question tout simplement de réalité et de récit et parce que je partais quand même du principe que moi-même étant une femme fallait pas que j'ai quelque chose de trop biaisé, fallait quand même que je puisse
ouais, bien sûr.
Tu vois, c'est pas un duo de un mec et une meuf qui ont écrit un bouquin pour ados, ça reste moi qui l'ai écrit.
Et alors il y a plusieurs trucs qui sont choquants dans l'étude au début, je te disais, c'est quand tu demandes est-ce que vous souffrez de précarité, la première réponse c'est relationnel, c'est-à-dire qu'en fait il y a une solitude hyper forte chez les jeunes. Qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce niveau-là? C'est très étrange cette solitude chez les plus jeunes.
Ça m'étonne pas, ça m'a pas du tout étonnée. Ce qui ressort de là et ce qui ressort de mes entretiens, c'est vraiment c'est pas que je suis toute seule, c'est que j'ai personne avec qui je me sens suffisamment à l'aise et suffisamment compris ou comprise pour aborder ces questions-là. Pour la plupart, c'est des personnes qui sont suivies par des professionnels de la santé sexuelle, soit pour un suivi, soit pour... parce que les parents sont en sueur, quoi. Mais souvent se pose ce constat de... en fait, les trois seules vraies questions que je me pose dans ma vie, je n'oserais jamais leur poser. Et c'est ça que j'ai trouvé complètement paradoxal. Ces personnes sont entourées, ont des potes, il n'y a jamais autant d'informations avec les réseaux sociaux, et pour autant, on reste sur un « je me sens pas à l'aise parce que j'ai peur d'être jugée, parce que c'est des personnes qui n'ont pas mes codes, parce que c'est des personnes qui projettent ». Donc on se retrouve, moi je me suis retrouvée avec beaucoup de parents qui... Cette phrase atroce de « mais tu resteras toujours mon petit bébé ». Mais en fait, elle a 16 ans, de quoi tu parles, de petit bébé. Donc il y a aussi beaucoup le poids des parents, c'est très compliqué, j'ai l'impression, pour les parents d'admettre que ton enfant est un être sexué. Ça les fait bugger tous. Et pourtant, c'est bien le cas. Et j'ai tendance à dire, les ados, ils vont pas aller chercher les réponses, ils vont juste aller chercher les réponses au mauvais endroit. Y a pas ce truc-là de, mais comme je leur en parle pas, c'est trop tôt. Ah d'accord, bah du coup, pourquoi on nous parle de la guerre, pourquoi on nous... Enfin, pardon, hein, mais ce truc qui consiste à dire, on va pas leur parler de sexualité, ils sont pas censés en faire. Bah du coup, on enlève tous les cours d'histoire.
Du coup, moi ce que j'ai lu comme étude, enfin j'en ai lu pas mal sur le sujet, entre autres, c'est qu'à 12 ans, globalement, 100% des ados ont vu un porno.
Alors, moyenne d'âge du visionnage du premier porno en France, 9 ans. Moyenne d'âge du premier. Et à 12 ans, un ado sur 3 a déjà regardé ou regarde régulièrement du porno. Et moi, quand j'ai posé la question, il me semble que la deuxième ou troisième raison pour laquelle les ados regardent du porno, c'est pour apprendre. C'est une plateforme éducative.
C'est ça. Et c'est là où ça commence à te faire peur. Mais cela dit, on est aussi, nous-mêmes, on n'a pas le même âge tous les deux, mais été éduqués au porno. C'est quoi, tu parlais des trois grandes questions, c'est quoi les questions qui reviennent le plus
Alors, oui.
Parce que, forcément, bah, c'est oui. Là où nous on a des parents qui nous écoutent aussi, tu vois.
Alors, j'ai plutôt parlé par thématique. Ouais. On va plutôt parler thématique. Le sujet de la performance sexuelle revient beaucoup.
Ouais.
Ça reste un âge où tu te penses à travers aussi tes actes sexuels ou justement ta non-activité sexuelle. Donc la performance sexuelle qui est intrinsèquement et 100% née de l'industrie du porno.
Ouais.
Et la surexposition à ces images-là.
Et pour les filles et pour les garçons, j'imagine.
Pour les filles, pour les garçons, pour les personnes, pour absolument tout le monde. Qui sont, rappelons-le, à cet âge-là, c'est de la violence. Voir des scènes pornographiques, c'est comme regarder des scènes de violence. Donc la performance sexuelle, est-ce que je dois durer autant de temps? Moi, j'arrive pas à durer 45 minutes. Moi, mon pénis, il est pas comme si. Moi, ma vulve, elle est moche. Il y a personne qui osera jamais me toucher. Et puis moi, les odeurs. Et puis moi, ceci. Donc il y a vachement de choses de comment je fais pour être un bon coup. Il commence un petit peu à comprendre que la notion de bon coup n'existe pas, que c'est hyper subjectif, que ta pote peut trouver un mec en disant ouais c'est un bon coup et que toi derrière pas du tout, parce qu'en fait ça dépend de chaque personne.
Et puis surtout c'est une alchimie quoi.
Et c'est une alchimie, et puis il y a tout un tas d'autres choses que la taille du pénis et la tronche de tes lèvres. Enfin, oui, c'est, ça va au-delà de ça. Ça va surtout au-delà de ça.
Exactement.
Donc la performance sexuelle, tout ce qui touche à la notion de consentement.
Okay.
Avec cette question qui moi m'a vraiment mis KO, qui est oui mais en fait si je comprends bien parfois les filles elles se sentent obligées ou en fait elles sont pas à l'aise, enfin il y a plein de choses qui font qu'elles disent pas non clairement, donc en fait comment je sais que quand elle dit oui ou qu'on rentre dans le rapport elle est vraiment consentante?
Ça c'est plutôt les garçons du coup.
Ça c'est plutôt les garçons.
Et les filles se posent la question aussi dans l'autre sens ou
Non, moins. C'est marrant, mais beaucoup moins. Les mecs sont vraiment dans un truc de... j'ai pas envie d'être un violeur, en fait.
Ouais.
Enfin, ça me fait vraiment flipper de me dire que potentiellement, plus tard, elle va regretter. Ou la circonstance, la situation a fait qu'elle n'a pas été assez à l'aise avec moi pour me dire stop. Enfin, toutes ces questions de limite. Donc, le consentement revient beaucoup. Et de... mais en fait, je vais pas demander à chaque fait et geste si je peux l'embrasser, lui enlever sa culotte, lui toucher le zizi. Enfin, ce truc de casseur d'ambiance et casseuse d'ambiance, ça le fait paniquer. En mode... on m'a dit que ça devait être hyper fluide et naturel, alors là, d'un seul coup. Et enfin, je dirais que, quand même, la question de l'amour, hein. La question de l'amour, la question des douleurs. Donc, en fait, les peines de cœur, la douleur même pendant le sexe, est-ce que c'est normal d'avoir mal, comment je fais si, justement, moi, mon kiff, c'est les rapports sexuels où ça fait mal, vaginisme, moi, ça n'arrive pas à rentrer. Utérus rétroversé, entreversé. Enfin, en fait, toutes les questions autour des douleurs, de cœur, de cul, de touch, de pénis, rentrent aussi vachement dans le top 3.
Intéressant, intéressant. Une chose dont on a parlé aussi ensemble juste avant, je veux dire, toujours dans les études, dans lesquelles, tu vois, les articles que je lis, etc., et que je trouve intéressant et flippant à la fois, c'est que et ça rassurera peut-être les parents, mais moi je trouve ça extrêmement triste, c'est que les ados, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de relations sexuelles que nous. Et en fait, ça ressort d'ailleurs dans ton étude, puisque parmi les jeunes qui ont répondu, donc 14-18, il y en a quasiment 50% qui n'ont jamais de relations sexuelles. Et c'est assez faible finalement quand tu as 18 ans.
Entre 14 ans,
18... bien sûr, mais...
Ouais, 18 ans aussi. Et je pense que le chiffre qui, moi, me choque encore plus, c'est la question des violences sexuelles. Et la question c'est, est-ce que as-tu déjà été victime de violences sexuelles? Il y a 50% qui dit non.
J'ai plus le chiffre, mais c'est 20% qui disent je sais pas.
Voilà, et 20% qui disent oui. Donc,
ouais, c'est ça.
Donc, 20%, donc les 20% qui disent oui, plus les 20% qui disent je sais pas, ça veut dire oui, mais je veux pas qu'on dise que je suis une victime.
Ou je veux pas me le dire moi-même d'ailleurs.
Ou je veux pas me le dire moi-même, ou c'est trop douloureux, ou peu importe, ou je sais pas, parce qu'en fait finalement je sais pas ce que c'est qu'un viol. Tout ce que je sais c'est que, et leur mot encore une fois, il m'est arrivé un truc pas cool. Bah. Ça répond à la question. Donc oui, forcément, il y a moins d'ados qui sont actifs sexuellement. Mais encore une fois, et j'en parlais quand le journal Le Monde avait sorti son enquête à laquelle j'avais participé, où je disais que finalement, cette forme d'abstinence et cette volonté de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est la réaction physique au mouvement MeToo, c'est la réaction intime au mouvement MeToo. On ne l'avait pas encore eu. On a eu des pseudo-inshallah initiatives politiques. On a eu beaucoup d'initiatives militantes, donc beaucoup plus, je dirais, sociales, philosophiques, mais en fait, les réactions physiques au mouvement MeToo, c'est ça? C'est tous ces jeunes qui disent mais en fait, je sais pas, genre j'ai toutes mes copines qui ont déjà été violées. Donc en fait, la seule chose que je peux garantir aujourd'hui, c'est que la seule façon de pas être violée, c'est de pas avoir de relations sexuelles. Et les jeunes sont là-dedans. C'est une forme de protection. En fait, si au cours de ma vie, il va forcément falloir que je passe par un moment où il va m'arriver ce fameux truc pas cool, bah j'en veux pas, ça me fait peur. Je préfère me faire l'amour, me baiser, me découvrir, bien plus que de le partager avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une autre. Parce que finalement, la seule personne à qui vraiment je fais confiance, c'est moi. Et c'est tragique comme constat. Mais on dit, c'est une femme C'est quoi les chiffres? Non, ils disent c'est 20% des femmes concernant les violences sexuelles, les viols. Je sais plus.
Alors, j'ai pas
deux femmes sur 10, il me semble. Pas du tout, c'est 9 femmes sur 10.
Ah ben bien sûr. Quand tu parles avec des femmes,
oui.
En fait, elles te disent toutes. Il y a un moment donné, il y a une violence sexuelle,
oui, bien sûr.
Ou un rapport non désiré, quoi.
Complètement. Donc non, c'est donc finalement quand les ados commencent à comprendre que c'est comme ça que ça se passe et que ça arrive à tout le monde, bah tu dis bah flemme en fait. Enfin, d'avance, on connaît les chiffres. Bah non, du coup, bah oui. Ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, je trouve que la distinction qui a toujours existé, mais qui a été théorisée et du moins vulgarisée récemment, de la différence entre l'orientation sexuelle et l'orientation romantique, finalement, fait beaucoup de bien. Parce que le fait de comprendre que tu peux être attiré par un certain genre romantiquement et attiré par un autre genre sexuellement, ça fait vachement de bien. Donc déjà, ça éloigne ce truc, ça différencie ce truc de « mais moi, je dois forcément être amoureuse pour Ken avec quelqu'un ou je veux absolument être dans une relation. » Non, non, il y a les deux choses. Ça remet au centre un certain intérêt pour les relations platoniques. Et en plus, toutes les personnes qui sont asexuelles trouvent enfin une place aussi dans l'intimité. Et finalement, ça met la sexualité comme une activité comme une autre. Enfin, ouais. C'est pas « the thing ». Enfin, si toi, ton truc, c'est la poterie, lire des livres et faire des mangas, très sincèrement, c'est tout aussi hype que la sexualité. Et je trouve que ça, finalement, c'est pas mal. Mais donc, ça rejoint aussi ce chiffre-là des jeunes qui font moins l'amour parce qu'en fait, espace de non-sécurité, espace de domination, espace où il y a des enjeux de pouvoir, espace où je suis pas safe.
C'est ouf. Et tu sais, j'ai lu un philosophe... attention, je te sors de la culture. Culture confiture.
Attention la ref.
Un philosophe sud-coréen qui disait... en fait, ce qui enlève le sexe finalement, les interdictions, c'est le trop de sexe. Et en fait, le porno, c'est le trop de sexe. Ouais. Et du coup, le trop de sexe fait que ça t'inhibe complètement, tandis que quand il y a des restrictions, bah, finalement, tu braves l'interdit, etc. Et en fait, le trop de sexe fait que.
Quoi. Et je dirais même le faux sexe, parce que finalement, le porno.
Ouais, bien sûr.
Les gens kennent pas, personne kenne comme ça. Et moi, c'est aussi un truc que j'essaie de faire comprendre. Bah pourquoi moi, comme ça, au plafond, en mode rôti, c'est ma cam en fait. Okay,
ouais, moi, j'attache mes copines là, tu
vois. No problem. Là, au niveau du ventilateur en plastique, là. Voilà, ouais, c'est pas mal ça. Ouais,
J'ai des cordes dans un.
Oh my god. Oh my god. Non, mais. Ouais, c'est du trop sexe et c'est du faux sexe, surtout. Et j'essaie de faire comprendre ça aux ados. Et en fait, il faut vulgariser, il faut tout le temps donner des exemples. Et d'un seul coup, ils comprennent un peu plus. Et je leur ai dit, mais c'est des acteurs porno dans des films porno. Ce ne sont pas des citoyens et citoyennes porno dans des documentaires porno qui viennent témoigner. Donc, c'est-à-dire que ces mêmes personnes-là, chez elles,
ont une sexualité normale.
Ont une sexualité qui n'est pas celle-ci.
C'est ça.
Ah, ok, d'accord.
En fait, c'est une performance.
Une performance, c'est un métier. C'est un jeu d'acteur. Comme quand, en fait, Batman, tu te dis pas, tu vois, tu te dis pas, ah ouais, bah non, tu comprends que c'est de la fiction, que c'est pas ça. La réalité. Bah là, c'est exactement la même chose.
Il n'y a pas d'homme araignée. Je suis désolé de vous. I break it down. Je suis désolé.
Ouais, voilà. Bah ouais, non, ça existe pas dans la vraie vie.
C'est vrai que...
Mais c'est intéressant, parce que comme c'est les premières images que ces personnes-là ont d'une sexualité qui n'est pas encore active chez eux, chez elles et chez elles, ça biaise complètement tout. Il n'y a pas cette capacité à prendre de la distance et de se dire, en fait, t'es tellement en soif de connaissance, de comprendre, t'as peur d'être con, d'être conne pendant l'acte, t'as pas envie qu'on te juge, t'as pas envie qu'on parle sur toi, t'as pas envie... T'as toutes ces questions-là qui rentrent, qui fait qu'en fait, tu veux te rassurer et tu veux être au courant de tout ce qui se passe. Et finalement, je peux comprendre, mais ce n'est pas la réalité. Et c'est pas ce qui va vous faire le plus de bien, en fait.
Non. Et d'autant que le porno, ça c'est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que ça s'est... Alors, le digital, évidemment, ça s'est répandu, mais en plus, ça s'est surperformé. C'est-à-dire que maintenant, t'as de la double pénétration en permanence, double vaginale, double anal, double machin. Et du coup, c'est... Enfin, forcément, ça fait peur. Enfin, déjà, faut se retrouver dans ce genre de situation, en fait. Tu vois, moi,
déjà, faut en avoir envie.
Et puis
excusez-moi, je tiens à mon anus, quoi. Y a pas de sujet. Je flemme.
Mais... Et tu vois, et forcément, tu te dis, attends, est-ce que c'est ça que je dois faire? Et du coup, tu es là, tu fais, waouh, c'est.
Et c'est ça, et tu l'as très bien dit, et ça, c'est souvent sorti de la bouche des ados, c'est qu'est-ce que je dois faire pour? Est-ce qu'il faut que je. Et cette notion de devoir faire, qui finalement vient complètement assombrir la notion de envie. Exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas qu'est-ce que je dois faire pour, mais plutôt de quoi j'ai envie. Et puis, cette mécanique qui consiste à écouter ses désirs, mais alors ça, c'est ado comme pas ado. Les adultes plus âgés, moi, je le vois, ne savent toujours pas le faire. Hein. Ce truc de se reconnecter à mais c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'excite, est-ce que je dégage suffisamment de temps et d'espace émotionnel et cérébral pour tout simplement réfléchir à mes fantasmes, à mes envies, à ce qui m'exciterait. En fait, est-ce que je prends ce temps-là, ou du moins, est-ce que j'ai le privilège d'avoir ce temps-là ? Je peux totalement aussi comprendre. Et donc, on se retrouve dans un truc où c'est vraiment performance. En fait, c'est marrant parce que pour moi, du moins dans ma sexualité, c'est le seul espace où il n'y a rien qui se joue. J'ai pas d'enjeu.
Bah non.
Et les ados, ils ont tout à prouver là-dedans.
Bien sûr.
À quel point t'es une meuf branchée, à quel point t'es un mec viril, à quel point t'es the boy, à quel point t'es une meuf qui part pas de temps. Donc forcément, on va plus s'intéresser à toi parce que bah non, elle est plus vierge. Donc en fait, ah oui, ça veut dire que tu vas pouvoir ken avec elle. Ah oui, donc ça veut dire que tu vas pas devoir porter le truc de c'est sa première fois et potentiellement elle ken avec toi que dans 6 mois. Ah oui, ok, donc tu vois, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et ce truc de moi, je veux passer mon bac, je veux arriver à la fac en étant plus vierge. Bon, ça c'est. Ah ouais, en mode flemme, je veux que ça soit fait. Je passe à autre chose. Je suis là en mode d'accord, ok, très bien, pas de soucis. Mais.
C'est très 20e siècle en fait, tout ce que tu décris, c'est marrant, hein, ce truc de mec viril, c'est pas déconstruit en fait.
On n'a pas du tout. Non, c'est à peine en train d'être déconstruit. Mais ce n'est pas déconstruit parce que la révolution sexuelle masculine n'a pas encore eu lieu.
Non, ouais.
Enfin, ça n'existe pas. Je pense que ça va.
J'ai juste peur dans ce que tu dis, en disant ah putain, j'ai peur qu'elle soit pas d'accord et du coup, je sais pas où est-ce que je peux aller, quoi. C'est ça le truc.
Ouais, c'est encore guidé par la peur et par la punition, ce truc de bah aujourd'hui maintenant ça sait quand un mec fait de la merde.
Ouais,
merci,
heureusement.
Vas-y-le.
Enfin, pas toujours, hein, malheureusement.
Pas toujours, ouais.
Pas malheureusement. Mais un truc que tu m'as dit aussi qui m'a choqué, c'est la, enfin je le savais mais j'avais pas de stats sur la chirurgie des lèvres. Alors je sais plus comment t'appelles ça d'ailleurs,
la labioplastie.
C'est combien?
Il me semble que c'est dans le top 3 des premières chirurgies demandées par les ados.
C'est un truc de ouf. Ça aussi, c'est un impact du porno, quoi.
C'est complètement un impact du porno. Mais encore une fois, en fait, il n'y a pas des lèvres dégueulasses, ça n'existe pas.
Ben non.
Et des lèvres suçables non plus.
Non,
tu vois, il n'y a pas cette notion. En fait, ce n'est pas de la nourriture, donc il n'y a pas cette notion d'appétence. Et pourtant, c'est très ancré dans leur cervelle, ce truc de « mais moi, j'ai une touche qui est tellement dégueulasse, c'est aucun mec voudra ni me toucher, ni me faire un cuni. »
C'est ouf.
Bah ouais, mais après, dans les pornos, tu vois que des nanas qui ont été castées pour leurs critères physiques, y compris ceux-ci.
Ouais, ouais, ouais. Et alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu dis aux parents ? Parce qu'en fait, il y a des parents qui nous écoutent nécessairement. Et comment tu abordes le sujet ? Est-ce que tu leur offres le bouquin et tu te débrouilles de ton côté ?
Alors,
ou est-ce que tu en discutes avec eux ?
Alors les deux. Après moi je suis pas, je les brosse pas dans le sens du poil.
Les parents tu veux dire ?
Ouais, je suis plutôt, j'ai plutôt un constat qui est très clair, qui est en fait l'éducation de vos enfants ne s'arrête pas là où vous n'êtes plus à l'aise. Donc en fait si vous leur avez appris à marcher, être poli, dis bonjour à la dame, regarde à gauche, regarde à droite avant de traverser, enlève tes chaussures, va te laver les mains quand tu fais caca, machin, en fait ça continue. Du coup. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est un package, l'éducation. Mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de tendresse parce que je comprends que pour la plupart des parents, en fait, ils n'ont pas reçu ça. Donc, en fait, ils ne savent pas. Ça reste des sujets tabous. Donc, ce ne sont que des adultes qui n'ont pas déconstruit certains sujets et qui, donc, par conséquence, ne se sentent pas capables de transmettre. Mais qui, d'un autre côté, parce que le tabou plane encore, n'ont pas encore la capacité de dire « je sais qu'il faut que tu le saches, mais juste, c'est pas moi qui vais m'en occuper. » Mais du coup, je déploie ce qu'il faut pour que d'autres personnes prennent le relais. Y a encore ce truc de « c'est moi qui fais l'éducation, et si j'ai pas envie d'en parler, on n'en parle pas. »
Ouais.
Bah non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, vos ados, ils vont sur du porno pour trouver les réponses. Il n'y a pas de « je leur en parle pas, donc en fait, ça les intéresse pas. »
Si j'en parle pas, ça n'existe pas.
Oui, voilà, c'est genre, tu es trop mignonne. Vraiment, tu es trop mignonne. Donc, et j'ai un passage pour les parents où je dis, passe-moi tes darons. Et je dis, concentrez-vous, quoi. Concentrez-vous. Parce que, encore une fois, je ne dis pas que c'est à vous de le faire. Donc, l'argument qui consiste à dire je suis pas à l'aise, que j'entends complètement, ne marche pas. Par contre, c'est à vous de trouver les ressources, qu'elles soient littéraires, cinématographiques, des podcasts, des comptes Instagram, même des personnes, des groupes de parole, pour que vos enfants puissent avoir accès à ces informations. Parce qu'en fait, leur en privé, c'est cruel.
Bah, c'est cruel et on le voit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont peur, en fait.
Ils ont peur et puis ils savent pas. Ils captent R. Enfin, quand je vois des filles qui confondent encore vulve et vagin, tu vois, ou qui pensent que l'urètre, donc le trou par lequel on fait pipi, c'est le même que le vagin. Enfin, on est sur des trucs.
Les mecs pensent ça, je crois. Je sais pas pour les filles, mais...
Même des meufs. Parce qu'en fait,
mais c'est le cas pour les mecs, cela dit. Mais
c'est pire pour les mecs. Mais quand je leur dis, mais tu sais que t'as le droit de prendre un miroir et regarder à quoi ça ressemble. Oh, ah ouais, j'ai le droit. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment MeToo. Pour moi, la génération MeToo, c'est vraiment c'est tout un tas de femmes qui attendent l'autorisation pour regarder du porno quand elles sont en couple, pour arrêter de s'épiler, pour mettre telle robe, pour en fait, elles attendent l'autorisation pour regarder leur vulve. Et pourquoi pas? Mais dans ce... moi, je suis même pas dans, un... dans une analyse qui consiste à dire « Ok, la raison pour laquelle les femmes attendent l'autorisation. » Le constat est qu'elles attendent l'autorisation, bah, on leur donne, en fait.
C'est fou parce qu'en fait, de mon grand âge, j'ai l'impression que ça a vachement bougé, tu vois.
Est-ce que ça a bougé.
Est-ce que tu me décris ? J'ai l'impression que ça bouge pas, tu vois. C'est genre, d'où, quelle autorisation de qui, en fait ?
En fait, c'est souvent ça, de qui ? Et en fait, elles savent même pas. Mais le fait est qu'elles attendent l'autorisation. Et je le vois, ça c'est toute ma communauté. Tu penses que j'ai le droit d'eux ? Mais est-ce que ça va pas faire... Est-ce que je... Ouais, ok, bon. Une autorisation.
Si je couche le premier soir, tu penses que...
Ouais. Est-ce que ça veut dire que je suis une fille facile ?
Ouais.
Est-ce que ça veut dire que... Et ça avance, mais ça avance dans des milieux très privilégiés. Comme d'hab.
Ouais, d'accord.
Tu vois, mais qui ne sont pas du tout représentatifs de la population, en fait.
Clairement pas. Et tu disais, il y a des différences culturelles entre les pays.
Il y a des différences d'intérêt et de questionnement géographique. Donc, si je dois cartographier, par exemple, sur un sujet qui est le sujet des règles, au Canada, par exemple, ça va être beaucoup, beaucoup de questions sur la transition du jetable au durable.
Ok.
En France, c'était encore... comment on met un tampon ?
Ah, ils ne sont pas passés au cap menstruel.
Ah ben en fait, il faut déjà leur faire une liste de toutes les protections menstruelles. Ensuite, il faut leur expliquer que les règles, c'est pas sale. Ensuite, il faut déconstruire le terme protection hygiénique parce que ça ne relève absolument pas de l'hygiène dans le sens où les règles ne sont pas sales. Mmh. Donc en fait, le champ lexical de l'hygiène, des périodes protection hygiénique est très problématique.
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est ce que tu utilises parce que tu es sale ou est-ce que c'est ce que tu utilises pour ne pas salir ? Ça aussi, ça mindfuck complètement
un
cerveau.
Ouais, 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 ouais.
Donc, il faut déjà faire tout ça. Et après, tu leur dis, au fait... La planète. Au fait, les morceaux de fibres qui restent coincés dans ton vagin. Au fait. Ah, ok, d'accord. C'est encore ailleurs.
D'accord.
On est encore ailleurs. Après, tu vois, Sénégal, Mali, Madagascar, on va être sur vraiment des questions de précarité menstruelle, par exemple.
Oui. Et quand il y a des solutions là-bas pour la précarité menstruelle ?
Il y a des solutions, mais qui restent pour l'instant encore de l'ordre de fournir des protections jetables. Parce que dès qu'on passe à du... dès qu'on passe à du durable, il y a les questions d'eau.
Oui, bien sûr.
Il y a les questions de mode d'emploi, de lavement. Enfin, il faut pouvoir bien faire sécher sans que ça se... C'est un dos.
C'est
encore le stade de avoir assez. Non, tu ne gardes pas un tampon 8 heures. Non, tu ne fabriques pas des tampons avec un bout de bois et...
Et du coton autour.
Et du journal. Non, tu ne fabriques pas des serviettes avec des tongs. Non, on en est encore là.
Ouh.
Ouais.
Ok.
Donc, tu vois, ne serait-ce que ce sujet-là des règles est abordé de différentes façons. Tu vois, en Suisse, Belgique et Canada, on va être beaucoup plus sur des questions de redéfinition des normes de ce que c'est que le couple. Donc ça va être des questions sur le couple libre, ça va être des questions de polyamour, ça va être des questions de... Là où en France, on va être beaucoup plus sur l'infidélité. Ou alors, on m'a posé au Canada cette question, est-ce que j'ai le droit d'avoir des plans cul quand je suis ado ? Évidemment que tu as le droit. Donc tout, tu vois, tout ça est très différent. Et ça aussi que j'ai trouvé très intéressant de voir où en était chaque pays, même si c'est les personnes que j'ai touchées ne sont absolument pas représentatives de la population. Quand même, je remarque, voilà, en France, on m'a posé presque aucune question sur le couple libre, quoi. Ça va être des questions plutôt sur ça veut dire quoi tromper, où est-ce que je pose la limite. Donc c'est marrant, ça va être plus tourné sur la restriction. Là où, tu vois, au Canada, ça va être plus tourné sur l'ouverture et la liberté. Ouais.
Ah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi, ce que je sais, c'est que les filles, au Canada, elles draguent.
Mmh.
Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas, quoi.
Ça ne drague pas. Bien sûr qu'elles draguent. Et d'ailleurs, pourquoi elles ne dragueraient pas ? J'ai plutôt envie de dire. Mais en France, non, on est encore sur quelque chose de patriarcal. Je dirais pas romantique, je dirais vraiment patriarcal. Où on attend. Enfin, comme d'hab, tu vois, on attend d'être dragué. Mais parce que... après, c'est aussi intrinsèquement lié à la confiance en soi. Moi, je vois bien que les femmes autour de moi qui ont confiance en elles ont toujours dragué.
Ouais. Mais moi, j'ai vu ce truc de c'est un peu fucked up, mais de copines, et elles m'en ont parlé, donc elles ont donc conscience en okay. plus. De. T'as envie de te faire draguer, et le moment où tu te fais draguer, tu fais ah bah non. Tu vois, le mec, tu le rejettes. Tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais l'ignorer. Attends. Qu'est-ce que tu
crois? Ah ouais, tu vois, bah, le, ouais c'est tu juste vois pour se faire mousser, quoi.
Tu vois, non, mais non, elles en ont envie en plus. Elles en ont envie, mais la posture, c'est. J'ignore. Tu sais, ce qui est complètement con, parce que si tu l'ignores, comment tu veux qu'il remarque que tu l'as ignoré, quoi? Enfin,
ah oui, ce truc. Oui, ok, d'accord, je vois. Tu je vois fais un peu la meuf. Je fais genre, je m'en fous, je calcule pas trop.
Ouais, bah ouais.
Oui, ça aussi, moi aussi, j'ai des potes qui font ça, ça m'énerve.
Et
bah, je comprends pas. Je suis là, bah non, en fait, sois active.
Ah bah oui, c'est dingue. Parce que là, maintenant, moi, je connais pas mal de filles qui se plaignent parce que les mecs ne draguent plus. Tu vois, dans la rue ben ou oui, dans les bars. Draguer, hein, je te parle pas des
oui,
mecs
oui, qui... Oui, on parle pas de harceler, on parle de draguer.
Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, des mecs intéressants qui t'abordent de manière, tu vois...
respectueuse et
respectueuse, agréable, etc. C'est de ça dont on parle, hein. Attention. On n'est pas sur le droit d'importuner.
Eh ouais, chalope.
Voilà, c'est ça.
Raboule ton cul, c'est-à-dire.
On n'est pas sur le droit d'importuner, clairement. Mais tu vois, eh ben, elles se plaignent de ça. Parce que bah elles le font pas, mais les mecs, et je pense qu'il y a des mecs qui sont bah du coup ils ont peur, tu vois, d'abord parce que MeToo t'en a parlé, mais aussi tu vois,
et puis moi je et puis flemme en fait ce truc de responsabilité unilatérale,
bah ouais,
moi ça me gaffe, enfin moi je n'ai jamais compris, en
c'est
fait
hyper patriarcal,
c'est hyper patriarcal, c'est en fait c'est la princesse qui attend le prince charmant.
Ouais, précisément,
c'est juste ça, hein, la princesse qui attend le prince charmant et qui attend d'être la choisie parmi tant d'autres.
Et ça c'est toujours vrai chez les jeunes,
moins.
C'est moins, ouais.
Moins, mais de par la naissance des réseaux sociaux. Et de tout un tas de nouveaux codes de drague qui ne sont plus les mots. Ça va être un emoji, ça va être les gifs, ça va être je t'envoie une chanson, ça va être un beaucoup de mèmes de j'ai pensé à toi. Donc je te fais dire tout un tas, ou dans lequel on peut dire tout un tas de choses que tu ne diras pas. La drague devient plurielle. Je pense qu'elle l'a toujours été, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière l'écran qui... Du coup, éloigne un petit peu de cette peur de qu'on me foute un vent devant tout le monde.
Je crois que les emojis, c'est un truc de yeuve.
Non, ça revient de ouf à la mode. Tu rigoles ou quoi? Il y a tout un code, il faudrait un dictionnaire rien que pour ça. Il y a toute une lecture des emojis cumulés, pas cumulés. Ça plus ça, ça veut dire ça. Lollipop, ça veut dire ci. Les cerises, ça veut dire ci. Et puis les gifs, les flammes, ouais. Sur Snapchat. Combien de flammes t'as? Donc ça veut dire que tu entretiens un truc. Enfin, non, il y a un vrai monde, mais qui du coup fait que t'as. Enfin, pas, je dirais pas que t'as pas besoin, parce que je pense que c'est toujours nécessaire à un moment donné de verbaliser et d'acter les choses, mais où la drague se fait par tout un tas de choses qui ne sont pas perçues comme de la vulnérabilité matérialisée. Donc, c'est-à-dire, y a, tu me plais, en fait, je voulais te dire que, est-ce que tu penses qu'on pourrait parler? Pff, non. Je t'envoie une chanson, je t'envoie un mème, je t'envoie un gif, je t'envoie une vidéo où je me dis, ah, tu vois, tous ces trucs en mode me and my crush when we. Ouais, c'est plutôt comme ça maintenant que les
d'accord, amis. Ok. Et c'est quoi les questions qui t'ont le plus choqué, on va dire tu vois, vraiment, tu t'y attendais pas, quoi.
Alors, les questions qui m'ont le plus choqué, la première, ça va être est-ce que mes parents ont le droit de me forcer à avorter?
Ah ouais, oh, ok.
Je suis mineure, est-ce que mes parents ont le droit de me forcer à avorter? Une autre question qui m'a choqué, ça va être.
Interpellé, quoi, tu vois. Enfin...
Ouais, interpellé. Il y en a une que j'ai trouvée vraiment trop mignonne. C'était un groupe de 5 filles qui étaient réunies toutes chez une. Et elles m'appellent, donc au parleur, machin. Elles leur fichent leurs questions, machin. Et, je sens, donc, l'entretien touche à sa fin. Donc je leur dis, bon, bah, merci beaucoup et tout. Et je sentais qu'il y avait une question qu'elles ne voulaient pas me poser. Et à un moment donné, il y en a une qui se déterre, qui me dit, bon, en fait, on avait une question à te poser. Et je dis, ouais, vas-y, je vous en prie, dites-moi. Et elle me dit, en fait, on comprend pas. Déjà, une phalange, ça rentre pas dans notre vagin. Un tampon mini, ça ne rentre pas dans notre vagin. Comment un pénis, c'est censé rentrer, censé faire du bien? Et je dis, mais voilà, on aurait dû commencer par là, en fait. Et va leur expliquer. Mais j'ai trouvé ça d'une mignonneté. Et pourtant, je veux pas du tout infantiliser les ados, mais il y a eu un truc vraiment de l'ordre de pourquoi on en fait tout un pataquès alors que nous, pour l'instant, juste ça fait mal, en fait, ton dos. C'est quoi le projet? Cette question m'a interpellée. Toutes les questions liées à la loi. J'ai 15 ans, je suis amoureuse d'un mec de 23. Si je couche avec, concrètement, mes parents ont le droit de faire quoi? Les questions liées à l'avortement et une question que moi j'ai trouvée très touchante et à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre. Et il me semble que j'ai demandé de l'aide à ma communauté à ce moment-là et aux personnes concernées. C'est un mec qui me dit ma copine veut avorter, moi je veux le garder, est-ce que j'ai mon mot à dire? Et la réponse est oui, tu as ton mot à dire, mais ce ne sera pas le dernier mot.
C'est ça.
Et une tristesse presque irréparable. De vraiment... en fait, moi, je le voulais, cet enfant. Et j'entends hein, tous les enjeux.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais en fait, on parle très peu de ça.
De la volonté du mec, tu veux dire ou...
bah de, d'un mec qui aurait voulu avoir l'enfant et qui finalement comprend, accepte, encourage la décision qui est de ne pas poursuivre cette grossesse, mais qui finalement est hyper triste. Je n'avais jamais entendu une question comme celle-ci. On m'avait jamais posé de question. Et il était mais hyper triste. Dit mais moi je l'aime, je me sens prêt. Alors oui, je sais qu'on est jeune, mais c'est pas grave. On va commencer à. Enfin, et j'ai trouvé ça hyper touchant.
Il était sincère quoi.
Ouais, il était hyper sincère. Il a dit est-ce que ma tristesse ne serait-ce qu'à sa place quoi. Est-ce que j'ai le droit d'être triste? Est-ce que j'ai le droit de dire que moi j'aurais voulu le garder, que j'aurais voulu être papa. Enfin bref. Ouais, cette question-là.
Et tu parlais de vaginisme, c'est un truc qui est très répandu. Parce que,
en fait, pas
moi,
mal,
c'est, ouais. C'est bizarre parce que moi, peut-être que parce que je suis un mec, sans doute, mais c'est une question à laquelle j'avais pas été soumis. En fait, tu vois, je savais même pas que ça existe. Enfin, je savais que
moi,
ça existait.
Moi, j'ai fait du vaginisme pendant 3
mais...
ans, par exemple.
Wow.
Ouais, je fais du vaginisme pendant 3 ans. Un an et demi en relation et un an et demi ensuite pour en sortir.
Un an et demi en relation?
Bah, j'étais en relation avec un mec et j'ai fait du vaginisme pendant un an et demi. Je ne le savais pas.
Bah, du coup, tu te fais souffrir de ouf.
Ouais. Et comme tu le sais pas, tu continues. Alors que t'as mal.
Parce que tu penses que c'est comme ça, en fait.
Du bah, coup, parce tu te dis, ça va se détendre au bout d'un moment. Ou en fait, tu dis rien. Tu te dis juste, bah, je suis sa meuf, donc faut forcément qu'on ken. Enfin. Ouais. Et à ce moment-là, il n'y a pas toute cette présentation du sexe non pénétratif qui est tout à fait cool. Et qui est tout à fait acceptable et accepté. Non, à ce moment-là, moi, je suis pas du tout dans une conception du sexe qui est un sexe politique. Moi, je suis dans un sexe de faut qu'on ken en fait.
Quoi,
ouais, du quotidien, très patriarcal et très pénétratif et très hétérocentré. Donc et trois ans avec des douleurs atroces. Moi, j'en avais même des fissures. Enfin, c'était l'enfer.
Et comment t'en sors? Enfin, je te pose la question, mais je pense qu'il y a des gens qui... pour leurs enfants ou pour les gens qui...
Alors déjà, faut accepter que c'est pas normal d'avoir mal. Donc faut accepter on arrête de se faire violence comme ça. Et puis ensuite, faut accepter qu'on t'aide. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien d'accepter de recevoir de l'aide. Et de se dire qu'il y a des personnes qui vont prendre soin de moi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et après, avec il y a des kinés qui font de la rééducation du périnée, qui est très très bien. Il y a des gynécos, il y a surtout des sexologues, parce qu'il faut en parler. Il faut parler de ça, il faut parler du traumatisme sur le corps que ça laisse. Parce que l'idée, c'est d'en sortir et de ne plus avoir ce réflexe.
Mais oui, parce que si tu as de la douleur, du coup, tu vas avoir peur en permanence.
Exactement.
Donc, tu vas
donc c'est sortir petit à petit de cette peur. Donc sortir, c'est un cercle vicieux. Donc sortir de ce cercle vicieux pour juste... ne plus appréhender le sexe et ne plus ne serait-ce qu'appréhender cette zone de son corps. Enfin moi, si tu veux, mon corps allait de ma tête à mon nombril et ensuite de la moitié de mes cuisses à mes pieds. Entre, cette partie du corps n'existait pas en fait. Parce que on t'a vendu le truc de c'est la partie du corps qui te fait le plus de bien. Sauf qu'il s'avère que moi, c'est la partie du corps qui me fait le plus souffrir.
Ouais.
Donc on fait comment? Enfin, on m'a raconté des...
Mais il y a un truc qui m'échappe, parce que moi, ça m'est arrivé une fois de tomber sur une fille qui faisait du vaginisme. Pas à 50, mais une. Et bah du coup, on l'a pas fait. Enfin, tu vois...
Bah vous avez fait d'autres trucs?
Bah oui, c'est ça. Et du coup, je comprends pas, le mec, il force. Enfin, il y a un truc
non,
qui m'échappe
pas,
un peu,
non,
tu
non,
vois.
Pas forcément. C'est toi qui te dis, bah en fait, le sexe, c'est son pénis dans mon vagin.
Oui, mais ça rentre pas, je veux dire, techniquement.
Ah bah ça rentre, mais il faut forcer.
Moi, j'ai pas été jusque-là, je crois.
Oui, normal. Merci, Greg. Thank you for us and for our pussies.
Bah non, mais ouais.
Non, mais même moi, j'étais là, vas-y et tout, mets du lube, on y va, tu vois. Non, je te jure, j'étais vraiment là-dedans, mais parce que tu t'envisages même pas une sexualité autre à ce moment-là. Tu te dis, on peut faire
normal,
des trucs.
Il y a pas ce truc de normalité, je veux être normal, ou je sais pas, je me pose la question.
Mais il y a ce truc de, aucune de mes copines n'a mal pendant la pénétration, elles te disent toutes que c'est un truc de ouf.
Ouais, c'est ça.
Et puis en même temps, il y a aussi ce truc de aucune de mes copines ne me dit qu'elles ont du sexe sans le pénis de leur mec dans leur vagin.
Ouais.
Donc je vois bien que. Et puis finalement, t'en as aussi envie. Enfin, tu vois, t'as pas envie que de. Et puis comme tu conçois le sexe un peu comme. À ce moment-là, les prélits existent encore. Alors que en soi, ça n'existe pas. Enfin, ce que tu fais avant, ce que tu fais après. Enfin. Il n'y a pas de chronologie ni d'étape de la sexualité.
Tu peux expliquer ça parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, l'expression.
Alors,
préliminaire.
Préliminaire, ça veut dire, quand tu ouvres un dictionnaire et que tu regardes la définition, préliminaire, ça veut dire l'acte qui précède la situation majeure d'un acte, en gros. Est-ce que c'est très clair? Non, en fait, c'est... Alors, préliminaire, ça veut dire ce qui précède l'acte majeur.
Ouais.
Donc, en fait, tout ce qui se passe pendant les préliminaires, c'est considéré comme un peu moins bien, un peu moins important que ce qui va se passer après. Donc, dans la façon dont nous, on pratique ça, c'est les bisous, les caresses, la masturbation, le sexe oral, etc., etc., qui, tout ça, dans un seul but, de mener à ce big moment qui est la pénétration.
C'est ça.
Ok, donc... Et
donc
tout ça,
on jette ça à la poubelle.
Donc ça, on jette ça à la poubelle. C'est-à-dire que faire des bisous, c'est du sexe, doigter quelqu'un, c'est du sexe, au même titre que la pénétration, c'est du sexe. Il n'y a pas de catégorisation par importance ou par valeur des pratiques sexuelles, ça n'existe pas. Les pratiques sexuelles perçues comme une pyramide, non plus. Il n'y en a pas qui rapportent plus d'argent que d'autres, il n'y en a pas qui sont plus importantes, qui ont plus de valeur que d'autres, et surtout, il n'y en a aucune qui rend valable un rapport. Donc, il n'y a pas... Et moi, je pensais comme ça. Donc, si on fait ça plus ça, ouais, on a fait des trucs, mais on n'a pas couché ensemble. Si on fait ça plus ça plus ça, ok, là, on peut commencer à dire qu'on a couché ensemble. Et tout ce qu'on a jusque-là mis dans la catégorie préliminaire, pour moi, c'était pas coucher, c'était faire des trucs. Donc, tu vois ?
Ouais, mais je vois très bien. Mais, non, mais pour moi aussi. Je te dis, mais moi aussi. Hein.
Enfin, ouais, voilà.
Pour ça, moi, par si, contre, tu vois, s'il n'y a pas de pénétration dans ma tête, je me disais, bah, vous avez couché ensemble ? Non, pas vraiment.
Non, pas vraiment.
En fait,
ah bon,
on a fait des trucs, mais voilà, on n'a pas couché ensemble.
On a fait des trucs, ça m'a oublié. Mais j'étais pareil. Mais par contre, plus maintenant. Enfin, plus maintenant. Et par contre, je trouve que ça t'ouvre un champ des possibles dans ta sexualité. Et c'est une source de plaisir beaucoup plus intense que. Quand j'avais une perception du sexe qui était vraiment hyper codifiée. En fait, c'était un parcours, quoi. Étape 1, étape 2, étape 3, éjaculation, bouteille d'eau, ventilo, douche, ciao.
Ventilo.
Ventilo. Grenadine. Douche. Éventail. Brumi.
Est-ce que, d'ailleurs, tu parles de douche, est-ce que les filles, elles ont bien intégré qu'il fallait faire pipi après ? Et moi, je vois plein de filles qui ne sont pas au courant.
Ouais, d'ouf. Alors, toute personne qui avait un urètre, une vessie, une vulve, il faut absolument faire pipi après pour la simple et bonne raison que, en fait, les cystites, ce sont des bactéries qui sont présentes dans votre tube digestif et donc qui, pendant les rapports sexuels, même s'il n'y a pas eu de sexe anal, en fait, c'est des zones qui sont très proches. Donc, en fait, avec les mouvements, les frottements, l'air, ça peut très vite arriver jusqu'au niveau de votre vagin. Et en fait, c'est des bactéries qui ont des formes de petits crochets. Et donc, en fait, qui vont remonter le long de votre vessie pour arriver ensuite jusqu'au rein, etc., etc. Donc, le fait de faire pipi, ça les fait descendre. Faut imaginer des petits bonhommes qui, à chaque fois que vous faites pipi, ça leur met un jet d'eau dans la tronche et du coup, ils tombent un petit peu plus. Non, mais c'est comme ça qu'il faut l'imaginer.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle, quand t'as une cystite, on dit bois beaucoup. Parce qu'en fait, ça leur évite de grimper, ça les refaire descendre à chaque fois d'un étage.
Donc ça n'a rien à voir avec les préservatifs, pas préservatifs, on est d'accord.
Ah non, ça n'a rien à voir avec les préservatifs, c'est vraiment une question de si jamais il y a des germes, des bactéries, enfin plutôt des bactéries qui sont arrivées jusqu'à ton vagin ou jusqu'à ton urètre, c'est pour les évacuer, tout simplement.
D'accord.
C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec les capotes, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et puis aussi, souvent, t'as envie de faire pipi, quoi.
Oui. En tout cas, chez les mecs, c'est comme ça, mais...
Ah ouais, après avoir couché, vous avez envie de faire pipi ?
Moi personnellement.
Ah ouais ?
Bah
ok.
Ouais.
Bah moi je sais que pas forcément, mais je me force.
Ah ouais, d'accord.
Je
donc
me
faut
force
se forcer.
Je me force à et c'est dur parce qu'en plus ton clito il est hyper sensible et du coup tu te poses comme ça sur les chiottes et littéralement tu peux attendre 10 minutes, tu vois.
Mais pour un mec c'est pareil, il faut attendre de descendre un peu.
Ah, je sais. Ouais, je sais, vous vous retrouvez à pisser dans des positions un peu cheloues.
Bah, tu t'assieds et puis t'attends. En fait.
Ouais, t'attends. En fait, on est là comme deux à attendre. Toi aussi, t'attends ? Bah ouais.
Bah ouais. Mais ça va peut-être faire du bien à des gens de se dire, ah bah ouais, eux aussi, t'attendent.
T'attends dans la douche, j'attends sur les chiottes ? Ouais, ok, vas-y, on fait ça.
Ah bah, c'est toi.
Ah oui, c'est ça.
Bah oui, t'attends. Bah oui. Donc, les questions qui t'ont choqué le plus, je t'ai posé la question.
Oui, tu m'as dit.
Les questions les plus courantes, les questions qui t'ont plus choqué.
Ouais.
Ce que devraient faire les parents.
Ouais.
Donc, les parents, ils devraient en parler ou trouver un professionnel de santé. Il y a une chose dont on n'a pas parlé quand même.
Ou trouver des ressources littéraires,
ouais.
Musicales,
ouais,
peu importe.
Ton podcast. Ton,
ouais, mon livre, mon compte Insta, d'autres.
Ça peut être ça.
Il y a des podcasts, il y a des choses, il y a des émissions de radio qui parlent de sexualité, il y a plein de choses en fait.
Donc ça. Et ensuite, tu m'as dit, il y a une peur des figures d'autorité chez les plus jeunes.
Ouais.
Tu peux nous parler de ça ?
Alors, moi, quand je demande aux ados pourquoi vous me posez des questions à moi alors que vous savez très bien que je suis pas médecin, ils me disent, mais parce qu'en fait, les autres, ils nous rappellent nos parents. Du coup, flemme. Je sais qui les autres. Bah, les profs, les intervenants, les intervenantes, l'infirmière. C'est des personnes dans le sens où c'est des personnes qui représentent une certaine autorité ou qui représentent des personnes qui n'ont pas un rapport avec nous qui est un rapport d'égalité. Je m'explique. Un prof, par exemple, dans l'espace scolaire. Et souvent, on me dit, mais pourquoi les interventions dans un espace scolaire, c'est pas bien, c'est pas... En fait, c'est un espace où on te note, on te met des commentaires, on peut te faire redoubler. Donc, en fait, on a un contrôle de ton temps. Et c'est un espace où il y a des sonneries. Enfin, en fait, il y a quelque chose de très militaire, finalement. Et c'est pas un espace qui prône la diversité. L'école, c'est fait pour rentrer dans une certaine norme. Et après, on leur demande de faire preuve de vulnérabilité et d'ouverture d'esprit par rapport à la sexualité, leur féminité, qui est tout sauf de la norme.
Donc ouais,
ça ne marche pas. Et puis les profs, ça reste... c'est pas tes potes, en fait. Enfin, c'est pas tes potes. C'est des personnes... Et moi, ils me disent, je sais pas, ils s'habillent comme nos darons, ils ont les mêmes expressions, ils ont les mêmes téléphones, ils ont les mêmes goodies de sac. Enfin, c'est mes parents, quoi.
Ouais.
L'infirmière, elle dit oui, je garde tout pour moi, mais en fait, tu sais très bien que s'il y a un truc qui lui fait tic, elle sera dans l'obligation de le raconter à tes parents. En fait, toute personne qui rappelle leurs parents, flemme, ils en veulent pas.
Mais si les parents... En fait, c'est peut-être une... Enfin, dans ce que tu me décris, j'ai l'impression que si les parents se positionnent assez tôt dans la vie de l'enfant, sur ces sujets-là, bah du coup, ça devient plus tabou, peut-être.
Ça devient plus tabou, certes, mais après, j'entends aussi complètement qu'en tant qu'ado, tes parents, c'est pas forcément les personnes à qui t'as envie d'en parler. Moi, mon point, c'est, si jamais il t'arrive quelque chose, j'aimerais juste que tes parents, enfin, eux, souvent, aimeraient pouvoir se dire qu'ils font partie des gens de confiance. Pas forcément pour en parler directement,
ouais,
mais
bien.
Pour peut-être te trouver d'autres gens. Mais ça reste des personnes que tu identifies comme des personnes de confiance. Et aujourd'hui, les parents... vis-à-vis de tous ces sujets de sexualité, d'intime, de romantisme, d'émotionnel et d'affection, ne sont pas identifiés comme des personnes de confiance. Pas, est-ce que c'est l'interlocuteur ou l'interlocutrice directe, des personnes de confiance. Parce que jugement, parce que peur, parce que projection.
Ah, c'est choquant. Enfin, c'est choquant. C'est intéressant, en fait, et tu te dis, ben... Pour les parents, c'est peut-être... Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc, c'est comment tu démarres la discussion. Et en fait, la discussion, je pense qu'il y a plein de parents quand même qui ont... Enfin...
Alors moi, il y a plein de parents qui se posent le dimanche et qui scrollent mon compte.
Ah ouais ?
Ouais, d'ouf.
Excellent.
Et qui se disent, en fait, c'est comme s'il y avait une tierce personne en qui mes ados ont confiance. Et du coup, ça ouvre le débat. En mode, Camille a dit que...
Donc, ils en discutent avec eux après ?
Ouais. Ah, choisis cool. Un poste, on en parle.
Ah, excellent.
C'est pas mal, hein ?
Donc ça, c'est bien.
Bah, d'ouf, c'est trop bien.
Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parents qui utilisent son compte et donc il y a des conversations qui existent.
Il y a des conversations qui naissent de ça.
D'accord. Mais encore une fois, c'est les catégories les plus privilégiées.
Complètement.
Mmh. En même temps...
Bien sûr, bah les autres ne suivent même pas mon compte. Enfin...
Oui, bien sûr, par définition.
Ouais.
Enfin, par définition. Il y a quand même beaucoup de monde sur Insta, mais voilà. Quoi.
Ah bah oui, ça resterait... Oui.
Très bien, très bien. Merci beaucoup, Camille.
De nada, Greg.
Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Oh ouais. Je vais ouvrir la porte du ministre. Oh là là, je vais ouvrir, mais tellement de portes.
Vas-y, ouvre.
Ouvre. Alors, je vais ouvrir la porte du ministère de l'Éducation nationale, la porte du ministère de la Santé. Je vais ouvrir la porte. En fait, il faudrait qu'on construise un établissement qui s'appellerait un peu la maison du cul. Un peu dans chaque ville, ou du moins dans chaque région, qui serait. Évidemment, un projet co-créé avec l'État et avec les gouvernements, mais qui pourrait en fait accueillir des ados pour qu'en fait d'autres personnes qui, encore une fois, répondent à leur code, leur ton, puissent se charger de parler de sexualité. Ça résoudrait plusieurs problèmes. Le premier, ça serait en fait, il n'y a plus ce truc de je ne veux pas que les parents me tombent dessus. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup eu quand j'ai voulu aller dans les lycées et le collège. Finalement, j'en ai fait zéro. Parce que tout directeur, directrice, proviseur, proviseuse était en mode « J'ai besoin de savoir exactement ce que tu vas dire, j'ai besoin d'avoir tous les supports, j'ai besoin nanana. Je ne peux pas me permettre qu'un seul parent dise « C'est qui cette là qui vient parler de cul à mes enfants ?» Alors que non, pas du tout. Donc, il faut créer un autre espace. Un peu, et c'est un peu comme des espèces de sorties scolaires. Tu vois, tu signes, t'emmènes ton gamin là-bas. Les profs, ils sont dans un module « Comment aborder la sexualité ?» en tant que prof, ou comment essayer d'incarner une espèce de personne de confiance. Et en fait, nous, avec la bonne personne au planning familial, la bonne personne à la maison des femmes, la bonne personne, on s'occupe des ados. Donc okay. J'aimerais bien ouvrir la porte de cette maison. Et c'est le bon tapis, la bonne food, la bonne enceinte, la bonne playlist, le bon cadre, la bonne ref.
Tout est bon pour eux, quoi. Et du coup, ils sont dans un cadre de confiance.
Ils sont dans un cadre de confiance. Et l'école n'a pas à se préoccuper de c'est dans notre toit, c'est dans notre établissement.
C'est intéressant que tu n'aies jamais réussi à aller dans le lycée. Enfin, ou
en
dans
fait, c'était soit tu viens avec des gynécos, soit tu viens avec des sexologues, soit tu viens avec des associations qui ont l'autorisation. Et puis il y a ce truc de j'ai besoin de savoir exactement ce qui va se passer, ce qui va se dire. Alors que moi, mon point, c'est en fait, on n'en est pas encore à là. Ouais. Faut qu'on soit avant, c'est-à-dire bonjour, on va parler de sexe. Je suis pas encore en train de faire des modules. C'est encore après ça.
Ouais.
Moi, je suis encore au stade où les ados ont des questions qu'ils n'osent poser à personne. J'aimerais peut-être essayer d'être cette personne.
Et tu penses qu'ils arriveraient à les poser en étant en groupe, ensemble ?
Pas forcément, faut tester. C'est pour ça que la maison, c'est pas mal. Parce que tu vas le jeudi genré, tu retournes deux semaines après, finalement, c'est des groupes de deux, tu retournes... C'est ça qui est bien. Ça, t'as un suivi, tu vois.
Intéressant.
Et c'est eux et elles, eux qui viennent à nous, et pas l'inverse. Moi, je crois en une maison hyper... Mais tu vois, et c'est vraiment... C'est pas l'angoisse. Ouais. Souvent on me dit oui mais il y a des gymnases, il y a des maisons de je sais pas quoi, il y a des trucs, mais en fait personne n'a envie d'y aller, enfin c'est l'angoisse,
c'est des codes à l'ancienne quoi.
Ouais, c'est pas un truc où t'as envie de traîner.
Bah non, clairement
faut que t'aies l'impression de croiser Angèle, Big Flo et Oli, et que le tapis c'est le même que dans la chambre de Beyoncé.
C'est ça,
c'est pas, enfin moi ça m'a pas l'air compliqué, et ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher d'aller faire un truc qu'en seconde main, tu as chiné des... Ça ne coûte pas plus cher, c'est pas vrai. Donc, l'argument de l'argent, j'y crois pas. C'est pas... c'est autre chose. C'est... on n'a pas envie de s'emparer de ce sujet-là. J'entends aussi les raisons, mais là, moi, je parle de... En fait, on prend en charge le bon fonctionnement et la vie de futurs citoyens et citoyennes de la nation. Moi, c'est ça, mon point.
Très bien. Très clair.
Donc, concentrons-nous, s'il vous plaît.
Parfait. Merci beaucoup, Camille. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.